Nous allons commencer par la prière, comme d'habitude. Seigneur notre Dieu, merci pour cette matinée. Merci pour cet amour fraternel. Merci pour cette communion. Jour après jour, tu nous montres que cette communion, elle est extraordinaire. Parce que tu nous emmènes tous dans une liberté, chacun comme il est. Mais nous nous retrouvons en toi, toi qui es le même, qui ne change pas. Tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Ensemble, nous faisons partie du même corps. Nous soucions les uns des autres. Et quand nous nous trompons, quand nous sommes dans l'erreur, tu nous le montres. Et nous nous pardonnons entre nous. C'est extraordinaire et c'est formidable ce que nous vivons. Tu es vraiment, comment dire, ton fardeau est léger quand tu es dans notre cœur et quand nous recevons, quand tu nous parles, qu'est-ce que c'est léger et se reposant. Merci de nous montrer encore plus cette réalité-là et qu'ensemble nous soyons enseignés. Je remets entre tes mains ce message que nous allons partager ce matin. Qu'il soit un enseignement pour chacun de nous et moi le premier. Et qu'ensemble, chacun puisse tirer l'enseignement que tu veux que pour chacun de nous. Et qu'ensemble, nous avançons ensemble vers la vocation céleste. Merci pour toutes choses et que ta volonté se fasse, Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Nous avons dit beaucoup de choses ce matin, mais vraiment beaucoup de choses. Et moi, je prends comme un enseignement sur beaucoup de choses. Et nous voyons que l'Église, quand nous parlons entre nous, quand on regarde le monde, nous ne pouvons l'empêcher que de dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Une église qui dit, qui regarde le monde et qui trouve tout va bien, mais là il faut se poser des questions, il y a un problème. C'est comme si le Seigneur est en train de regarder le monde et dit, mais tout va bien. Et je n'ai même pas besoin de mourir pour lui ce monde-là, pour donner ma vie. Tout va bien. Non, si le Seigneur a payé le prix à la croix, il y a quelque chose qui ne va pas. Le monde rejette le Seigneur. Le monde rejette Dieu. Le monde est devenu Dieu. Le monde, à travers l'homme est devenu Dieu. On ne parle que de l'être humain, de la personne. Et même chacun devient soi-même. Mon intérêt, moi, il faut que je comprenne, et moi, la solution. Et quand on voit le monde, tout ce qui se passe comme catastrophe dans le monde, qui en est la cause? C'est l'homme, l'être humain. Mais comme par hasard, cet être humain se présente comme la solution. Oui, en tournant rond. Il crée des problèmes et il dit, moi, je suis la solution. Et on tourne en rond et il se croit pour un Dieu dans un monde où le diable trouve tout son plaisir. Et d'une manière souvent subtile. Tellement subtile que l'Église souvent se trompe et se conforme au monde sans s'en rendre compte. Et c'est là le discernement trouve toute sa place. L'Église qui dénonce les génocides, qui dénonce les guerres, oui, on n'a pas besoin d'être chrétien pour dénoncer cela. Ce n'est pas l'Église de dénoncer. Non, le rôle de l'Église quand elle dénonce les petits détails, qui ont l'apparence du bien, et pourtant ils vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Et on en a pris pas mal d'exemples ce matin. Sous le bandeau de la liberté de chacun, on dit maintenant, allez, relations sexuelles entre les jeunes, librement, et chacun est libre. C'est l'épanouissement de tout le monde, mettons les préservatifs gratuits pour tout le monde. Là, c'est un détail que l'Église doit dénoncer. L'Église ne doit pas l'accepter. L'Église dit, ça ne peut venir, ça ne peut pas venir de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit clairement que la relation sexuelle se fait au sein du foyer, c'est-à-dire après le mariage. Et dire cela, le monde va me regarder, va me dire un traditionniste, ce gars qui parle. C'est une fierté pour moi, parce que la parole de Dieu est claire. Et les erreurs des parents et des grands-parents doivent servir pour les enfants et les petits-enfants pour qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs en leur annonçant ces choses-là. Quand on veut mettre dans la Constitution le droit à l'avortement comme un droit des personnes, et on dit c'est l'humanisme, la parole de Dieu nous dit nous n'avons pas le droit d'ôter la vie à qui que ce soit. Dire cela, je sais qu'on peut se faire du mal tous, moi le premier, mais le dénoncer, on est dans l'obéissance. C'est un message d'amour et de paix. Je peux en prendre tellement d'autres exemples, que notre jeunesse a besoin d'un message de l'Église, un message de lumière. Et en le disant, je m'adresse à mes propres enfants, en leur disant, obéissance à la parole de Dieu, dans l'amour et dans la paix. Toujours dans l'amour et dans la paix. Et la Bible nous dit, aimer son prochain, même ceux qui ne sont pas chrétiens. Nous n'avons pas besoin de faire du mal. mais toujours dans la paix et dans l'amour. Je vous ai dit ce matin que j'étais dans un vide. Et dans ce vide-là, je ne pouvais pas préparer un message. Ou j'aurais pu préparer un message pour combler un vide. Mais ma conscience me dit devant Dieu, c'est à lui que je dois rendre des comptes, pas à vous. Vous pouvez dire en rentrant chez vous, mais comment ça se fait qu'Abdel n'a pas préparé un message, il n'a pas fait son travail? Je peux le faire en vous satisfaisant, vous. Mais si j'avais un vide, je viens vous mentir, je l'avais. Eh bien, je me suis nourri, j'ai cherché, et il y a un message qui m'a parlé. J'en ai lu, pas un seul, j'ai lu d'autres, j'en ai écouté. Mais il y a un message qui m'a parlé. Et c'est ce message que je vais partager avec vous parce que je trouve d'actualité. Si elle m'a parlé, donc voilà, donc c'est sur cette base-là que je le partage avec vous. C'est du frère David Wilkerson. Il est décédé en 2011, je crois qu'il est né en 1931, ce frère, en 1931, il est né, c'est un Américain, 1931, il est décédé en 2011, et on le connaît à travers le film La Croix et le Poignard. Hein, ouais. Vous connaissez un peu peut-être son témoignage, mais souvent je regarde le témoignage du frère avant de lire. Voilà. Et son témoignage est parlant, il est fondateur fondateur de l'église non dénominationnelle, ça m'a parlé aussi, voilà. À Times Square, voilà. Et Dieu l'avait appelé dans un ministère très chargé, il est décédé en 2011, et son épouse l'a rejoint un an après, en 2012, donc j'ai appris ça ce matin en faisant des recherches. Et le titre de l'intervention, c'est un message d'espérance. Et c'est le message d'espérance que j'ai lu hier. C'est la crainte de l'Éternel dans l'Église des derniers jours. Je ne vais pas vous lire tout, parce que c'est long, donc je l'ai déposé sur le site de l'Église, si vous voulez, le texte entier. Le texte entier, je vais vous lire quelques passages, nous avons juste le temps pour partager quelques passages que je pense interpellants et encourageants. Je vous lis. Bien-aimés, je vous le répète avec assurance. Dans les derniers temps, une église remplie de la crainte de Dieu va apparaître, et ce sera la crainte vertueuse de sa bonté. Et cette révélation glorieuse de sa bonté et de sa gloire protégera cette église de la puissance de l'ennemi. La plupart des prophètes de l'Ancien Testament prédisent que Dieu va lever une église des derniers temps qui sera remplie de la gloire et de la crainte de l'Éternel. Et la parole dit que cette puissante église se lèvera pendant les temps les plus pervers et confus de ce monde. Je pense que des mots tels que désespoir, confusion, catastrophe décrivent le mieux ce que la plupart des gens ressentent aujourd'hui dans le monde. Je précise que par une recherche historique, on peut dater à peu près là, parce que je n'ai pas la date exacte, mais c'est pour moi, d'après le contenu, ça date de la fin du 20e, début du 21e. Donc, c'est récent. C'est pas si vieux que ça. Dans une lettre à l'éditeur New York Post, une femme a écrit. J'écris cette lettre parce que je suis fatiguée de tout l'abus, le mensonge et la corruption. Que sommes-nous en train de faire à nous-mêmes ? La pédophilie, la drogue, le meurtre, la fraude, plus d'impôts à payer, la diminution des services, les SDF, les agressions. Pourrait-on voir autre chose à New York? Qu'est-ce qui se passe? Où est notre conscience? Où sont la dignité et les valeurs humaines essentielles? Se trahir les uns les autres, voilà l'ordre du jour. Et les gens qui se défendent se font tuer. On dirait qu'on tombe de plus en plus dans un désespoir sans fin. Je continue à rêver au jour radieux où je quitterai cette ville. Signé, Voix du désespoir, une femme du monde qui écrit déjà ça. C'est difficile à croire, mais la même confusion, le même chaos, la même iniquité que l'on peut voir dans le monde caractérise aujourd'hui l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'a écrit ce frère. Dieu a montré au prophète Osée que le peuple de Dieu, peu de temps avant le réveil des derniers temps, se prostituerait spirituellement, se tournant vers d'autres amours, malgré toute la bonté et toute la miséricorde dont il lui aura fait preuve. L'Église est comparée dans Osée chapitre 3, verset 1. L'Église est comparée à une femme aimée d'un aimant et adultère. Cependant, en parlant de cette femme adultère, et traître, Dieu dit, au verset 2, Osée chapitre 3, verset 2, il dit, « Je l'achèterai. » Et en effet, le Seigneur Jésus a racheté l'Église par son propre sang précieux. Quel tableau d'amour inimaginable. Ces dernières années, c'est David Wilkerson, le défunt, qui parle. J'ai dénoncé les iniquités et compromis qui se sont emparés de la maison de Dieu. Je pense que s'écrier contre la prostitution spirituelle est biblique. J'ai vu des abominations dans la maison de Dieu qui m'ont tellement accablé que je me demande parfois pourquoi Dieu ne frappe pas avec un éclair céleste sa propre maison. Mais ne nous risquons pas à perdre de vue une grande vérité prophétique, une vérité connue et comprise par tous les prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Elle est la suivante. Même si cette église est une prostituée, même si elle a donné son cœur à d'autres, divisée, confuse, infidèle qu'elle est, même si elle s'exhibe ayant un cœur tortueux, aimant le monde, s'égarant malgré l'amour que lui a montré le Seigneur, il n'en reste pas moins qu'elle lui appartient. Il l'a rachetée avec son propre sang et il a promis qu'il la reconquérait pour en faire une fiancée fidèle et digne. Toujours de l'espérance avec Dieu. Le Seigneur dit à Israël, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme et je serai de même envers toi. Toujours dans Osée, chapitre 3, verset 3. Puis il déclare, après cela les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Osée, toujours chapitre 3, verset 5. Cette prophétie a été écrite longtemps après la mort de David. L'allusion à David de ce passage est en fait une prophétie concernant Jésus, le Seigneur Tout-Puissant. Il s'agit d'une double prophétie parlant littéralement d'Israël, mais aussi de l'Israël de Dieu, qui est son Église, qui est la nôtre. Et la prophétie de ce verset dit que l'Église des derniers jours s'élèvera hors de sa prostitution, de la tromperie, et se remettra à chercher Dieu seul, l'espérance. Pour l'instant, ce peuple des derniers temps est en train de sortir des églises prostituées. Il y a en fait quelque chose qui s'ouvre. Les yeux des chrétiens commencent à s'ouvrir. De toute la sensualité, des campagnes publicitaires et du divertissement, les chrétiens sont en train de les quitter. Ce peuple ne court pas au rassemblement pour voir des hommes accomplir des miracles. Il court plutôt après David, le roi Jésus, leur Seigneur. Il est leur désir. C'est une bonne chose. Cependant, malheureusement, certains croyants jouent encore à la prostituée. Leurs yeux ne sont pas fixés sur Jésus. Ils veulent un évangile de la célébrité, de la prospérité. Ils sont amis des hommes et des plaisirs. Ils trouvent du plaisir dans l'excitation, dans les foules, dans les cérémonies en grande pompe. Pourquoi tant de gens sont-ils prisonniers de cela? Pourquoi ne pleurent-ils pas sur cet art de la mise en scène charnelle dans la maison de Dieu? Même les pécheurs voient l'imposture, mais beaucoup de chrétiens non. Est-ce parce qu'ils sont encore centrés sur l'homme et non centrés sur Christ? Ils voyagent à travers l'Amérique pour aller écouter leur prédicateur ou leur enseignant favori, alors que le Seigneur est tout proche. Je pense que la plupart des programmes de télévision, chrétiens, aujourd'hui, ne sont rien d'autre que de la prostitution spirituelle. Tout le tapage publicitaire et toutes les niaiseries font rougir de honte le vrai peuple de Dieu. Le monde est amusé, choqué, ahuri devant cette incroyable hypocrisie. Mais beaucoup de chrétiens avalent tout. Cependant, aussi mauvaise que puisse être la télévision chrétienne, je crois que les églises mortes et sèches, les pasteurs flétris, sont tous aussi adultères. Comment pouvons-nous nous attendre à ce que des pécheurs aillent dans des églises desséchées à un niveau tel que même les croyants ne les supportent pas? Ces églises-là sont une farce sortie de l'enfer. Mais Dieu nous promet que tout cela va changer. Parce que la crainte de l'Éternel va être restaurée dans l'Église des derniers temps. Les nations se sont héritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Un passage de l'Apocalypse, chapitre 11, verset 18. Le jugement de Dieu vient. Mais d'abord, il appelle ceux qui le servent de tout leur cœur. Le dernier appel de l'Évangile sera de craindre Dieu et lui donner la gloire. Apocalypse 14, versets 6 et 7, je lis. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire. » Car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Bien-aimés, dans ces passages, Dieu parle d'un type de crainte bien particulière. Ce n'est pas la peur de sa fureur, de son jugement ou de sa colère. La Bible déclare que l'Église tressaillera à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Osée chapitre 3, verset 5. Voyez-vous, la bonté du Seigneur est une vérité dangereuse. Si notre cœur n'est pas droit, beaucoup prêchent à ce sujet et ensuite se relâchent spirituellement, ayant ainsi trouvé une excuse à leur péché. Et pourtant, Dieu ne cachera pas ce message loin de son Église. Laissez-moi suggérer quelques raisons pour lesquelles l'Église doit craindre la bonté de Dieu. L'Église de la fin des temps, donc c'est la nôtre, verra la présence de Christ comme aucune Église ne l'a vue dans l'histoire. Et l'Église de notre époque est si inique et indigne. Mais Dieu, dans son amour, va remplir l'Église des derniers temps d'une si grande mesure de sa gloire, de sa bonté et de sa miséricorde, que nous ferons l'expérience des plus grandes manifestations de la présence de Jésus dans toute l'histoire de l'Église. Nous le verrons dans une si grande puissance, une si grande gloire, qu'une grande et sainte crainte s'emparera de nous. Oui, la bonté de Dieu envahira nos âmes et provoquera à la fois crainte et effroi, mêlés d'admiration. Le fait qu'il choisisse de se manifester à l'Église la plus adultère de tous les temps, en l'occurrence Laodicée, celle qui mérite le plus son jugement et comme si cela ne suffisait pas, il placera aussi en nous un cœur qui recherche sa face. Il nous donnera des mains propres, des cœurs purs et une sainte crainte qui peut recevoir tout cela. Cependant, c'est là la raison pour laquelle il y aura dans les derniers jours un peuple de Dieu qui craindra beaucoup sa bonté. Ils sont las, dans le sens lassé, hein. Ils sont là de leur cœur enténébré. Ils sont lassés, ils sont là de leur tendance à l'indifférence et à la froideur. Rappelons-nous Laodicée. Voyez-vous, Dieu va réveiller un reste saint dans l'Église. Il est toujours question de reste, qui ne retournera plus jamais dans le monde. Il mettra dans son Église un cœur qui le cherche continuellement, un cœur entièrement fixé sur le Seigneur. Il ne poussera à n'aimer que lui. Je vous le dis, c'est à cause de sa bonté. Comment ne pas avoir vos cœurs remplis de sainte crainte quand vous considérez à quel point il était bon envers vous? Pourquoi fait-il déborder votre âme de joie? Pourquoi vos âmes est-elle enthousiaste dans sa présence, dans son amour? Quelle bonté insondable! Et bien aimé, le meilleur reste à venir. D'après les paroles de Dieu adressées à Osée, notre poursuite de Dieu va s'intensifier. Notre désir de Jésus va grandir. Nous ne nous détournerons pas de lui et n'aurons jamais besoin d'un autre roi. Nous ne demanderons conseil à personne d'autre que Jésus. Aucun autre amour ne viendra plus s'immiscer entre lui et nous. Osée chapitre 2, versets 19 et 20, je lis. « Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé pour la justice. »
la droiture, la grâce et la miséricorde, je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Ce qu'il dit, c'est « Je vais faire de vous un peuple fidèle. » Mais cela n'arrivera pas à tout le monde. Quand le Saint-Esprit descend et agit, encore faut-il lui répondre. C'est à ce moment-là seulement qu'il nous emmène dans la plénitude dont il est question. Quelle pensée incroyable! Non seulement il nous a sauvés, mais il va nous garder. Et l'amour que nous avons maintenant va grandir. Il sera plus bouillant, plus éclatant, plus puissant jusqu'au retour de Jésus. Cette église sera témoin de l'ébranlement ultime promis de toutes choses. Je vois ceci de plus en plus comme une prophétie de ce que Jésus va accomplir dans son Église. Gardons à l'esprit que notre combat est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants, contre les lieux célestes. Là, il nous parle d'un combat céleste, d'un combat spirituel. Il y a environ 5 ans, j'ai été complètement démoralisé de savoir que de nombreux pasteurs avaient ouvert leur église au concert de rock. Parlons d'aujourd'hui, on fait le parallèle aujourd'hui. Il y a environ 5 ans, j'étais complètement démoralisé de savoir que de nombreux pasteurs avaient ouvert leur église au concert de rock. Les adolescents ont été gagnés par la folie, dansant dans les allées, et dès leur sortie de l'église, je ne vais pas lire la phrase qu'il a dite parce que ça me gênait, tellement il est cru. Et je vais lire. Les adolescents ont été gagnés par la folie, dansant dans les allées et dès les sorties de l'église, s'adonnant à des pratiques que je n'ose qualifier à la sortie. Des parents m'ont écrit, le cœur brisé, disant « Mon jeune fils adolescent était bouillant pour le Seigneur, puis notre pasteur et notre responsable de jeunes à l'église ont accueilli des groupes de sauvages et j'ai perdu mon fils. » Il a rétrogradé. Il a développé un appétit pour la musique occulte au sein même de notre Église. Et les pasteurs tournent nos interrogations en dérision. Ça, c'est un problème pour moi, ça, je l'ai déjà évoqué. Faisons attention. Le monde. Ah, la musique, c'est gentil. Ça dépend. Quelle musique? Musique de variété? Regardez les paroles. Regardez les clips. Et l'Église ne dénonce pas ça. Que Dieu nous pardonne, qu'il me pardonne en tout cas. À Times Square Church, nous avons vu venir un jour l'ancien président et propriétaire de 3 pires maisons de disques de métal. Ça vous dit quelque chose? Vous savez qu'il y a un métal chrétien?
Ah oui.
Bien. Et voilà ce qu'il dit. À Times Square, nous avons vu venir un jour l'ancien président et propriétaire des 3 pires maisons de disques de métal chrétien. Métal chrétien d'Amérique. Le Saint-Esprit l'avait enfin secoué et lui avait dit qu'il était un faiseur de saleté et qu'il était en train de condamner toute une génération. Il s'est repenti et depuis, il avertit pasteur et responsable de la jeunesse en disant « C'est moi qui ai produit cela. Je sais ce que cela vaut. » Il devient un enseignement pour les autres. Pourtant, un grand nombre de ces responsables ne veulent rien entendre. Le diable les a trop aveuglés. Dieu merci, il a promis de faire tout bouger. Quand Dieu commencera à agir parmi son peuple, la maison de Dieu deviendra un reflet sur terre du combat qui fait rage dans les lieux célestes. C'est une guerre spirituelle qui est devant nous. Il va commencer à agir aux réunions, produisant des convictions puissantes, et les grands vont pâlir comme si leur cœur les lâchait sous le coup de la crainte de Dieu. Nous allons voir se produire un mouvement puissant de son Esprit Saint. Et une multitude de jeunes vont voir Jésus et être attirés à lui. Ils rejetteront totalement tout ce qui ne lui est pas agréable. Ils n'auront pas à dire « Mes parents m'ont supplié de lâcher ça » tellement ils seront convaincus par l'Esprit, ils lâcheront d'eux-mêmes. Non, je crois que Jésus veut venir et marcher parmi eux, manifester sa présence, afin qu'ils puissent dire « Écoutez, Jésus m'est apparu ». Et j'ai vécu sa présence. Ça m'a changé. Nous n'aurons plus à regarder passivement en portant le fardeau, en souffrant, en gémissant et en pleurant. Ô Dieu, des étrangers sont entrés dans ton sanctuaire et ils l'ont souillé. Au lieu de cela, nous tressaillerons de joie en entendant les foules témoigner. Jésus est venu à moi. Il a mis un nouveau cœur dans mon cœur pour lui. Personne d'autre que le Saint-Esprit ne m'a convaincu. Personne n'a eu à me dire de me purifier. Tout a été fait par Jésus en moi. Et je commence à le chercher de tout mon cœur. Nous allons voir de nombreuses choses étranges et merveilleuses à l'occasion de cet ébranlement. Déjà un renouveau d'abord dans la foi. Il y aura une sainteté qui sera manifeste sur le visage des serviteurs de Dieu. Il y aura une réprimande envers ceux qui vivront dans le péché. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Un saint homme de Dieu a écrit « Assurément que les saints de Dieu seront exaltés dans leur sainteté. Quand chacun d'eux aura son cœur rempli de Dieu, alors cela suscitera une crainte abondante dans les cœurs de ceux-là, même qui parleront avec eux. » En d'autres termes, quand on est rempli de Jésus, on devient inévitablement un sujet de reproche, de réprimande pour quiconque cache un péché secret dans son cœur. Un cœur coupable ne peut pas supporter le regard d'un enfant de Dieu. Il y a des siècles, un serviteur du Seigneur nommé Saint Basile, un homme droit, allait se faire emprisonner. On envoyait des officiers l'arrêter. Mais quand ils sont entrés chez lui et qu'il a tourné son visage vers eux, son expression était tellement remplie de Christ que les officiers sont tombés à terre à reculons. Ils n'ont pas pu lever la main sur lui. Une personne véritablement attachée à Dieu est source de gêne pour ceux qui vivent secrètement dans le péché. C'est cela le témoignage. Son regard n'est pas triste. Au contraire, c'est un regard plein de paix qui brille à l'éclat de Dieu. C'est un regard confiant qui dit « Tout va bien entre Dieu et moi ». Ce genre d'expression du visage rayonnante, paisible et sainte perce de sa conviction tel un phare à travers un monde noirci de péché. Bien-aimé, je vous le répète avec assurance. Dans les derniers temps, une église remplie de la crainte de Dieu va apparaître. Et ce sera la crainte vertueuse de sa bonté. Et cette révélation glorieuse de sa bonté et de sa gloire protégera cette église de la puissance de l'ennemi. Soyons prêts. Amen. Extraordinaire, non? Voilà ce que le Seigneur a permis que je lise hier, alors que j'avais un vide. Et bien, quand j'ai lu ça, ben, je dis, ben, voilà, ben, c'est des choses qui sont remises en place, et il y a beaucoup de choses à remettre en question. Et d'un seul coup, on est dans l'espérance, et je dis, ben, je vais partager ça avec mes frères et sœurs, et hop, et tout va bien. Que Dieu nous aide. Merci beaucoup, en tout cas.